Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Sabine Janssen, merci de répondre à quelques questions. Nous sommes aujourd'hui au CNAM. Alors, il faut bien différencier le CNAM et le musée. Pourriez-vous nous dire un mot sur l'historique et justement le fait de ne pas confondre tout, j'allais dire?
Oui, alors effectivement, le Conservatoire national des arts et métiers, c'est un établissement d'enseignement supérieur et y est également lié le musée du CNAM, mais ce sont malgré tout aujourd'hui deux entités séparées. Ce qu'il faut dire du CNAM, c'est que c'est un établissement d'enseignement hors normes qui a été créé en 1794. Avec, si vous voulez, un double héritage, l'héritage du mouvement des Lumières, mouvement qui s'intéressait à toute la vulgarisation des pratiques de la technique et des sciences, et l'autre héritage, si je puis dire, c'est l'héritage révolutionnaire. Pour bien comprendre la création du CNAM, il faut se rappeler qu'avec la Révolution disparaissent les corporations de métiers, les jurandes, qui permettaient de former les ouvriers, entre autres, avec toute une gradation, hein, les maîtres également. Il y avait les apprentis, puis ensuite les maîtres et les petits patrons. Donc, se former, je dirais, sur le tas. Hein. Avec la fin des corporations, eh bien, le système est totalement démantelé. Donc, les révolutionnaires se trouvent devant un problème majeur qu'il leur faut, d'autant plus à l'époque où la France est en guerre avec l'Europe, il leur faut impérativement faire fonctionner la machine industrielle française. Et donc, il faut un endroit où former ces ouvriers qu'on ne peut plus former dans les corporations. Voilà. Et donc, c'est à partir de cette idée, qui est également portée par l'idée progressiste de la diffusion justement de la science et de la technologie pour l'ensemble du peuple, eh bien, ce sont donc ces deux héritages, hein, qui vont favoriser la formation du CNAM. Alors, c'est l'abbé Grégoire qui va être à l'origine de la création du CNAM. Alors, je voudrais peut-être vous lire l'une de ses déclarations à la Convention qui me semble bien résumer au fond l'objectif, son objectif. Je viens vous présenter les moyens de perfectionner l'industrie nationale, la création d'un conservatoire pour les arts et métiers, où se réuniront tous les outils et machines nouvellement inventés ou perfectionnés. Tous les départements devront participer au bienfait de cet établissement. Le conservatoire sera le réservoir dont les canaux fertiliseront toute l'étendue de la France. Pour l'abbé Grégoire, le CNAM, c'est plus qu'une école. Hein. Il dit que c'est un phare guidant l'industrie. Donc, il faut à la fois que le CNAM expose toutes les machines qui existent, qui mettent à disposition du public tous les livres ou toutes les planches à dessin concernant les machines. Et il faut ensuite qu'il forme les populations qui le souhaitent. Donc, voilà les trois missions. Elles sont explicitement mentionnées dans les statuts du CNAM. L'article 2 des premiers statuts du CNAM stipule qu'on expliquera donc au sein de ce CNAM la construction et l'emploi des outils et machines utiles aux arts et métiers. Donc, les trois composantes essentielles du CNAM sont là. Des cours, le musée qui regroupe des collections particulières de machines et la collection du roi, cabinet des machines du roi, et la bibliothèque.
Alors, parlons du musée un petit peu. Toutes ces pièces, est-ce qu'on pourrait en choisir une ou deux au moins pour pouvoir avoir une idée de ce que représente un tel musée qui est un petit peu le résumé de toute l'histoire de France quelque part?
Oui, alors en fait, à l'origine, le musée n'était pas un musée, c'était un lieu de démonstration, c'est-à-dire que les machines y étaient exposées pour servir d'enseignement pratique. Les gens venaient, les auditeurs venaient, et on leur faisait une démonstration muette, c'est-à-dire qu'au fond, les cours étaient réduits simplement à la mise en marche de la machine et à l'explication de son fonctionnement. Alors, ce qui me paraît très emblématique, c'est par exemple le métier à tisser que nous avons devant nous, de Vaucanson. L'histoire de l'industrie textile est une histoire passionnante, qui court de la fin du 18e jusqu'à la fin du 19e, avec l'introduction de la mécanisation qui va permettre de produire beaucoup plus et avec des complexités dans les imprimés extraordinaires. Et là, on voit cette machine avec sa structure en bois.
C'est une très grosse machine.
Voilà, c'est une très grosse
machine. Elle doit faire au moins 4 mètres de haut.
Voilà, alors,
peut-être pas, mais
presque. Vous voyez très bien qu'une machine comme ça, eh bien, un ouvrier ne peut pas l'avoir à domicile. Donc, quand on voit, et c'est pour ça que c'est intéressant de se déplacer au musée du CNAM, de venir voir les machines, on comprend l'histoire aussi de la fabrication industrielle. Les usines sont nées de la dimension des machines et aussi de leur coût. Hein, le fait que l'ouvrier à la maison, qui autrefois pouvait combiner une petite activité agricole et puis un peu de textile chez lui dans sa cave ou dans son hangar, eh bien, il doit abandonner cette double activité et il va se retrouver à ce moment-là à travailler sur des machines qui ne sont pas siennes à l'intérieur de grands ensembles de production. Et là, la machine que vous avez devant vous est tout à fait emblématique de cette évolution des métiers à tisser.
Autre exemple, Sabine Janssen.
Alors, on a vu, en passant, là, lorsque nous avons eu la chance d'arpenter les couloirs tout à l'heure pour arriver jusqu'à cette salle des métiers à tisser, nous avons vu la machine à vapeur de Watt, ou du moins sa maquette, bien sûr, car il ne s'agit pas de la machine originale. Et elle est absolument fondamentale pour comprendre la première révolution industrielle. C'est elle qui a permis justement l'introduction de la vapeur dans le système de production et qui a totalement révolutionné le système de production. Et puis nous avons également vu ensemble des objets plus récents comme petits robots. Donc vous voyez, le CNAM permet de parcourir, c'est vrai, l'histoire économique et industrielle de la France, et je dirais même de l'Europe, et au-delà de la fin du 18e, du milieu du 18e jusqu'à nos jours.
Bon, il n'y a pas que le musée, il y a aussi bien sûr le CNAM qui fait énormément à différents niveaux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des activités du CNAM et donner des informations sur tout ce qu'il fait ?
Oui, alors aujourd'hui, donc, en fait, depuis la fin des années 30, le musée est dissocié de l'enseignement, tout simplement parce que la théorisation et la modélisation des problèmes scientifique a en quelque sorte mis au rencard la démonstration des machines. Donc ça ne devenait plus opérationnel pour comprendre toute une série de choses. Et c'est la raison pour laquelle les deux ont été dissociés. Alors, le CNAM, comme établissement d'enseignement, a donc progressivement évolué. À l'origine, les premières chaires, c'était des chaires de chimie, de mécanique, de filature, tout début, d'économie, avec Jean-Baptiste C, qui a été le premier titulaire de la chaire d'économie ici au CNAM, qui existe toujours. Et il y a eu tout au long du 19e siècle, en fait, une évolution dans le sens d'un rapprochement très étroit entre l'enseignement au CNAM et les besoins des industriels. Et donc une association étroite entre ces deux mondes, particulièrement vive sous le Second Empire, car à ce moment-là, vous savez, c'est l'essor en France de la révolution industrielle, portée par le pouvoir, notamment par Napoléon III. Le directeur à ce moment-là du CNAM s'appelle André Morin. Il est très en cours auprès de Napoléon III et donc va pouvoir jouir de son appui pour développer les activités du CNAM. Il fait rentrer notamment au sein du CNAM des industriels comme Schneider, le patron du Creusot. Et c'est donc ce qu'on appelle ce courant industrialiste qui va favoriser le développement des enseignements professionnels au CNAM. Il faut tout de suite dire qu'on a deux types d'enseignements. On a des enseignements, si vous voulez, un peu immuables généraux comme la géométrie, la chimie, la mécanique, la physique. Et puis on va avoir d'autres types d'enseignements ensuite plus spécialisés qui, eux, sont liés à l'évolution industrielle ou économique de la France. Je pense par exemple à une chaire de génie rural ou de machinisme qui va être créée dans le courant du 19e. Et ce système continue à fonctionner aujourd'hui. Autrement dit, l'enseignement au CNAM est un enseignement vivant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des chaires nouvelles qui sont créées en fonction de l'évolution des activités économiques du pays. On a par exemple une chaire en économie de la santé, on a évidemment une chaire en informatique, évidemment discipline qui n'existait pas autrefois, qui correspondent à des métiers. Hein, et donc c'est ce qui explique que le CNAM soit en perpétuelle création continue. Alors ces enseignements et spécialisés et plus généraux donc, vont se développer. Et ce qui va amener le CNAM un peu à se rénover à la fin du 19e, début du 20e, ça va être bon, d'une part une modernisation de ses statuts, parce que le CNAM souffre un peu au début de la Troisième République. Hein. Il est libre, gratuit, mais la Troisième République s'intéresse surtout à l'école primaire, elle s'intéresse surtout à l'université, et donc pas tellement à cet enseignement un peu hybride. Et par ailleurs, il y a des tas d'écoles qui vont se développer, des écoles patronales. Les grands industriels comme Schneider, par exemple, créent des écoles à l'intérieur de leurs usines, et puis des écoles municipales aussi. Donc le CNAM va être exposé à une certaine concurrence en fait. Et il va se renouveler, il va accueillir également à partir du début des années 1900 de nouveaux enseignements, notamment liés au travail. On a actuellement une chaire qui s'appelle Travail et Entreprise, où on fait de la sociologie du travail, où on étudie l'ergonomie, etc. Tout ça est né donc au début du XXe siècle. Et surtout ce qui va peut-être donner la marque de fabrique du CNAM, ce pourquoi le CNAM va être le plus connu en matière d'enseignement, c'est pour la formation de ses ingénieurs. Ça date seulement de 1922. Auparavant, on ne forme pas, et c'est d'ailleurs l'une des faiblesses du CNAM, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a pas de diplôme, en fait. Donc c'est libre et gratuit, mais en même temps, sur un marché du travail où on a besoin, au fond, de parchemins et d'étiquettes, bien c'est un peu problématique. Donc ça, ce sont des étapes importantes avec la formation de diplôme d'ingénieur, de délivrance de certificats d'abord et puis de diplôme d'ingénieur. Et à partir des années 1950, le CNAM s'étend avec un réseau régional. Alors ça va peut-être nous amener à parler du CNAM aujourd'hui, enfin dans sa structure.
Alors oui,
on en a déjà un petit peu parlé.
Quelles sont les sources qui font que le CNAM a cette réputation aujourd'hui? On a une vision un petit peu démocratique, très ouverte sur le monde et la société, ouverte à tous.
Eh bien parce que précisément le CNAM est ouvert à tous. C'est vrai que, et c'est en quelque sorte sa mission dès l'abbé Grégoire, ce doit être un établissement gratuit, public. Et donc on va avoir cette image dès les débuts d'établissements populaires. Et ça reste, hein, je peux vous dire que j'enseigne moi-même au CNAM aujourd'hui.
Dans l'inconscient.
Et ça reste dans l'inconscient, mais plus que dans l'inconscient. C'est-à-dire que les gens osent venir suivre des cours alors qu'ils n'oseraient pas nécessairement s'inscrire dans une université tirée de type classique.
C'est moins cher que l'université, le CNAM.
Alors, ce n'est pas tellement le calculé comme ça parce qu'il y a des tarifications spéciales étant donné que vous payez en fait à l'unité d'enseignement que vous prenez. Hein. Donc, c'est pas très cher, mais l'université française n'est pas très chère, hein, de façon générale. Et ça reste peu intimidant, en fait, pour des populations qui pourraient ne pas oser frapper à la porte de certains grands établissements.
Mais est-ce que les diplômes sont aussi valables que les autres?
Alors, ils sont tout à fait valables, et autant que les autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant longtemps, il y a eu des diplômes maison au CNAM, spécifique, professionnel, très très bien accueilli par les milieux professionnels et donc particulièrement reconnu, si vous voulez. Ça n'était pas académique, hein, au sens, je dirais, classique du terme, mais ça correspondait à des métiers, à des besoins de l'industrie ou des différentes branches de l'économie. Donc, c'est tout à fait reconnu. Alors, les dernières évolutions, néanmoins, c'est qu'on s'est aperçu que ces diplômes spécifiques CNAM avaient évidemment des problèmes de visibilité, notamment à l'étranger. Et donc le CNAM, aujourd'hui, a des cursus de licence, de master et de doctorat, donc des licences professionnelles, hein, mais sur le modèle européen actuel, ce qui favorise la mobilité et la visibilité du CNAM. Mais le CNAM conserve quand même des diplômes spécifiques, hein, des certificats de compétences. Par exemple, je m'occupe moi-même d'un certificat environnement international des entreprises qui n'a pas d'équivalent, hein, c'est ailleurs. Voilà, donc il y a des diplômes maison, des diplômes qui ressemblent aux diplômes que l'on peut acquérir dans d'autres universités, mais il n'y a nullement de dévalorisation, je veux dire, de ces diplômes par rapport aux autres. Voilà, simplement, c'est vrai que c'est beaucoup plus spécialisé et beaucoup plus marqué du point de vue professionnel. je voudrais quand même peut-être dire un mot sur ce que représente le CNAM en matière de chiffres. C'est quand même 80 000 auditeurs, hein, plus de 80 000, dont la moitié en région. Et ça, ça fait partie des évolutions de la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, c'est quand même 66 chaires, hein, c'est considérable. Il y en avait 14 au milieu du XIXe, donc c'est énorme. Et c'est plus de 450 métiers qui sont représentés. Ça va de l'assurance à la mécanique des fluides, au nucléaire, avec une activité de recherche qui reste importante parallèlement à l'activité de l'enseignement. Ça, il faut aussi le préciser.
Est-ce que le nombre des élèves augmente tous les ans ?
Oui.
Vous voyez une évolution significative ?
Oui, alors ce nombre augmente, mais ce qu'il faut tout de même préciser, et ça peut être utile pour les gens qui auraient envie de s'inscrire au CNAM,
bien sûr,
c'est qu'on a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais sur la masse des inscrits, on en a beaucoup qui abandonnent la première année. Hein, on a 75% d'abandon des primo-inscrits, c'est-à-dire que les cursus sont quand même des cursus lourds. Les gens ont parfois peine à imaginer que lorsqu'ils ont une journée de travail derrière eux, il faut qu'ils prennent encore leur transport en commun pour arriver jusqu'au CNAM. Et là, ils vont avoir 2 ou 3 heures de cours et puis rentrer chez eux. Ce sont des gens qui ont une activité professionnelle, ils sont fatigués, ils ont une vie familiale. Et donc, il est très clair que nos élèves sont très méritants.
Merci beaucoup, Sabine Janssen.
Je vous en prie.